bonsoir. Donc Anne, elle est revenue, donc on peut recommencer. Hein. On attendait que toi. Donc les derniers intervenants de ces journées, c'est Pascal Nouvel, qui est philosophe et biologiste au département des philosophies à l'université Paul Valéry à Montpellier. Et donc on va parler d'une question très intéressante. Donc les passions sont-elles des addictions comme les autres?
Merci beaucoup, merci à l'espace Mendès France de cette invitation. Je suis très content d'être ici à Poitiers pour parler de ce thème, donc cette question que j'ai proposée pour cette journée. Je ne savais pas à ce moment-là qu'elle serait placée tout à fait en dernier, et donc ça me donne la charge supplémentaire de conclure la journée. Comme vous allez le voir, je vais revenir, je ne l'avais pas prévu puisque je ne savais pas ce qui serait dit, mais je vais revenir sur un certain nombre de choses qui ont été évoquées, et j'en discutais à l'instant avec Mohamed Jaber. C'est une chose qui m'a frappé dans les précédents exposés et surtout dans les exposés scientifiques, enfin les exposés faits par les scientifiques, c'est l'insistance qu'ils ont mis les uns et les autres à parler de choses qui ne sont pas scientifiques, qui relèvent du social, du culturel, qui relèvent de l'environnement plus généralement. Donc de choses qui ne se passent pas dans les neurones, même si évidemment il y a des échos de ces choses-là dans les neurones. Mais en tout cas, ils prennent en considération des éléments extérieurs. Et donc ça m'a beaucoup frappé parce que très souvent, dans les communications scientifiques, eh bien, l'approche reste très ciblée sur l'aspect biologique. Alors donc, en proposant ce thème, les passions sont-elles des addictions? Sont-elles des addictions comme les autres? Évidemment, j'avais déjà l'idée d'aborder cette question des relations entre le biologique et le social, disons, pour présenter cette thématique de façon large. Alors donc, dans cette question, il y a deux termes, addiction et passion. On a vu que le terme d'addiction se définissait de manière... Enfin, c'est pas si simple de définir l'addiction, on l'a vu. Mais si on prend la passion maintenant, c'est encore bien plus compliqué. C'est encore bien plus compliqué, c'est-à-dire qu'on trouve tout au long de notre culture toute une série de définitions ou de jugements sur la passion qui sont extrêmement contrastés. En fait, on pourrait même dire que notre civilisation, notre culture commence par une interrogation sur les passions. C'est évidemment quelque chose qui va beaucoup intéresser les philosophes. Tout au long de la culture occidentale, on s'est intéressé aux passions, on s'y intéresse encore. Mais on pourrait même aller plus loin, on pourrait dire que notre culture a démarré sur cette interrogation. En tout cas, les premières traces que nous avons d'une littérature en Occident, cette première trace, elle est bien connue, c'est un livre, le livre d'Homère, qui s'intitule l'Iliade. Ce livre commence par le mot « colère ». Et le mot colère, c'est un terme qui désigne ce qui va être bientôt le paradigme, le modèle de la passion donc colérique pour les Grecs. La passion essentielle, ça n'est pas l'amour, ça l'est devenu plus tard pour nous, mais pour les Grecs, la passion la plus caractéristique, celle à laquelle ils ont le plus de mal de proposer un modèle d'explication, c'est la colère. Et vous savez qu'Achille se met en colère au début de l'Iliade. Et en fait, l'Iliade, c'est le récit des conséquences de cette colère. Donc, déjà chez Homère, on analyse les conséquences d'une passion. Et puis alors, dans la suite de l'histoire de la philosophie occidentale, eh bien, ce thème va revenir, le thème des passions, et il va revenir tout particulièrement chez les stoïciens, dans une école particulière de la philosophie, qui est l'école stoïcienne. Alors, Épictète est un des représentants de cette école, et vous avez ici une citation d'Épictète. On la trouve dans un livre qui s'intitule « Les entretiens ». Les entretiens, c'est les cours qu'il donnait, c'est les notes que prenait l'un de ses élèves dans les cours qu'il donnait. Et vous avez ici un des passages, il y en a de très nombreux, un des passages où il parle de la passion. « Et mon ami, montre-moi plutôt que tu domptes tes passions, que tu règles tes désirs et que tu suis la vérité dans tes opinions. » Ce que montre ce passage, c'est que les passions, pour les stoïciens, et ça c'est vraiment très caractéristique de toute l'école stoïcienne, c'est les choses qu'il faut dompter. C'est donc quelque chose de négatif, quelque chose qu'il faut soigner. Et les stoïciens se présentent comme les médecins de l'âme, ceux qui vont nous débarrasser, qui sont censés nous débarrasser, nous donner des moyens de nous débarrasser de nos passions. Alors là, je fais un grand saut, mais c'est pour vous montrer la diversité des opinions qui ont pu être émises sur les passions. Je fais un saut chez Hegel, et chez Hegel, vous trouvez cette phrase. Nous disons donc que rien ne s'est fait sans être soutenu par l'intérêt de ceux qui y ont collaboré. Cet intérêt, nous l'appelons passion. Lorsque, refoulant tous les autres intérêts ou buts, l'individualité tout entière se projette sur un objectif avec toutes les fibres intérieures de son vouloir et concentre dans ce but ses forces et tous ses besoins. En ce sens, nous devons dire que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Donc voilà qu'on est passé d'une évaluation critique de la passion, qu'on trouve donc chez les stoïciens, dans toute l'école stoïcienne, a eu une évaluation qui est au contraire très positive, puisque à suivre Hegel, rien de grand, donc rien d'important non plus, ne se fait dans le monde sans le secours, sans l'aide de cet aveuglement qu'est la passion. Il faut être aveuglé par une passion pour entreprendre une action, quelle qu'elle soit, parce que si on concevait les difficultés de l'action en question, eh bien jamais on ne l'entreprendrait. On considérerait que ces difficultés sont trop décourageantes, et c'est donc la passion qui permet de s'engager dans des actions qui sont donc trop ambitieuses pour qu'on puisse les entreprendre raisonnablement. Donc vous avez ici un aspect de la différence d'évaluation du terme de passion, de la notion de passion dans toute notre culture. Plus récemment, en fait, il y a 2 ans, je crois, Michel Reynaud, qui est un psychiatre, dont je vais reprendre une citation d'une interview qu'il a donnée. Michel Reynaud donc a publié ce livre qui s'intitule « L'amour est une drogue douce ». En général, ça reprend le titre d'une chanson, le refrain d'une chanson, avec une petite variation. L'amour, drogue douce, donc, en général. Je vous montrerai en terminant que certains écrivains ont montré que, précisément, elle n'était pas toujours une drogue douce et que même ça peut devenir l'amour extrêmement addictif. Alors, j'en viens à l'addiction, rapidement, parce que je vais redire des choses qui ont été dites ce matin, notamment par Jean-Claude. L'addiction, ça vient du terme latin addictus, qui signifie adonné à, et les premiers usages qu'on trouve du mot, c'est des usages qui indiquent que la personne qui était donc addicte, eh bien, était rentrée en esclavage parce qu'elle n'avait plus été capable de payer ses dettes. L'esclavage, la servitude, ça, ce sont des termes qu'on trouve en commun dans les significations du mot addiction et du mot passion. Le mot passion, en effet, il signifie passif. Les passions, c'est ce par quoi nous ne sommes pas actifs. Vous voyez en quoi je reviens rapidement sur Hegel. La citation de Hegel est contradictoire, puisque Hegel disait que nous agissons grâce à nos passions, mais pendant très longtemps, on a opposé action et passion. Les passions, c'était ce en quoi nous ne sommes pas actifs, précisément. C'est-à-dire, nous sommes donc dans la servitude. Alors, il y a un philosophe que tous les philosophes, qu'un grand nombre de philosophes vénèrent, je crois que c'est Bergson qui disait que tous les philosophes ont deux philosophes, ont deux philosophies, celle de Spinoza et la leur. Et donc, il se trouve que Spinoza a publié, l'année de sa mort, enfin, on a publié après sa mort, juste après sa mort, un livre qui s'intitule L'éthique. Et il se trouve aussi que la quatrième partie de l'éthique s'intitule « De la servitude humaine ». Il y est donc question de la servitude. Et évidemment, au moment où Spinoza publie ce livre, au moment où il l'écrit, il a en tête la servitude des passions. Même si, on l'a vu ce matin, le terme d'addiction est déjà en circulation, en fait, il est certainement beaucoup trop peu utilisé pour que Spinoza lui donne une signification particulière dans son œuvre. Alors, le mot servitude pour Spinoza, la servitude des passions, donc, il explique qu'elle vient, cette servitude, du fait que nous sommes attachés à un objet par une multitude de liens. C'est le nombre des liens qui fait notre servitude. C'est le fait que nous avons tant de liens avec l'objet que nous ne savons pas les séparer les uns des autres et les analyser de façon rigoureuse. Et vous allez voir que cette définition ou ce sens du mot servitude va revenir un peu plus tard et va nous servir à opposer, décidément je passe à chaque fois deux diapositives, va nous servir à opposer le terme d'addiction et le terme de passion. Alors, ce que je voudrais faire pour en venir là, c'est m'appuyer sur un travail qui est celui d'Hélène Fischer. Hélène Fischer est anthropologue, elle travaille à Rutgers University, et elle s'est particulièrement intéressée à une passion, qui est la grande passion de notre époque, donc non plus la passion de la colère, mais la passion de l'amour. Pourquoi aimons-nous ? Why we love ? Pourquoi se mettons à avoir quelque chose qu'on va appeler ensuite une passion pour un être particulier ? Alors évidemment, c'est une question qui n'est pas tout à fait neuve, mais elle l'aborde avec des moyens tout à fait neufs, eux, puisque ce sera les moyens de la neurobiologie contemporaine et notamment de l'imagerie cérébrale. Vous allez voir qu'elle s'est surtout attachée à regarder ce qui se passait, ce qui se passe dans le cerveau de personnes amoureuses. Mais avant d'en venir là, je voudrais faire un petit détour, même si là encore ça a été évoqué plusieurs fois, je voudrais faire un petit détour par le travail de James Holtz. Il en a été question ce matin, James Holtz. C'est cette personne qui, en 1954, a identifié ce qu'on appelle le centre de la récompense, le Reward Center. Le Reward Center, donc centre de la récompense, c'est une petite région du cerveau du rat qui, lorsqu'elle est stimulée, provoque un sentiment de bien-être chez le rat. Et on a pu s'en apercevoir. D'abord, lui-même s'en est aperçu par hasard. C'est-à-dire qu'il l'introduisait dans le cadre d'expériences qui n'avaient rien à voir avec la recherche du plaisir du rat, il introduisait des électrodes dans le cerveau de rat. Et puis il s'est aperçu que lorsqu'il introduisait son électrode à un certain endroit, eh bien curieusement, le rat manifestait un certain plaisir. Alors pour vérifier qu'il avait bien identifié quelque chose d'intéressant d'un point de vue scientifique et neurologique, il a conçu un appareil que vous voyez ici représenté, dans lequel le rat avait lui-même à actionner un levier pour produire des stimulations par le biais de l'électrode qui avait été implantée dans son cerveau juste avant. Et James Hall s'est aperçu que le rat s'efforçait de manipuler ce levier et s'efforçait même tant de le faire qu'il en oubliait de manger. Et c'est par là qu'il a défini le concept de reward center, donc concept de centre de la récompense. Donc une région limitée du cerveau qui, stimulée, va procurer à l'animal suffisamment de plaisir pour que finalement ça éclipse toutes les autres formes de récompense possibles. Alors, le plaisir ici est obtenu par une stimulation électrique. Le lien avec les drogues n'est pas immédiat. Mais quelques années plus tard, un chercheur a essayé de montrer qu'il pouvait tout à fait, on pouvait tout à fait penser que les drogues agissaient de la même façon, c'est-à-dire qu'elles stimulaient exactement la même région du cerveau. Et c'est donc ce qu'il a fait ici, ce qu'il a représenté, enfin, ce qu'il a montré dans cette coupe d'imagerie cérébrale, et qu'il a publié donc, dans un article paru en 1996. Bon, il l'a publié à d'autres occasions auparavant, mais ce que vous voyez surtout, c'est qu'il y a une région du cerveau chez cet animal. Donc, chez l'animal, en l'occurrence, c'est un être humain, donc un animal qui possède les mêmes structures que le rat qu'on voyait tout à l'heure. Et donc, chez cette personne, vous avez une petite région qui est activée, qui est particulièrement activée. Cette petite région, eh bien, c'est le centre de la récompense. Le centre de la récompense, là aussi, je ne vais pas insister parce qu'on en a parlé déjà plusieurs fois, mais c'est donc une région qui se trouve dans une partie enfouie du cerveau, et les drogues, plusieurs types de drogues, ont la propriété d'agir sur des récepteurs neuronaux qui se trouvent dans cette région. Autrement dit, les drogues agissent comme des micro-stimulateurs. Il ne s'agit pas, bien sûr, de stimulation électrique, mais elles viennent interférer, ces drogues, les molécules qui composent ces drogues viennent interférer avec des macromolécules qui sont présentes dans la région qu'avait identifié James Holtz et procurent le même type d'effet, c'est-à-dire donc un effet de satisfaction. Et ceci est retrouvé pour toute une série de drogues. Alors maintenant, j'en viens au travail qu'a réalisé Helen Fisher. L'idée générale dont elle est partie, c'est que dans la passion amoureuse, il doit se passer quelque chose de semblable à ce qu'on voit dans les cerveaux des personnes addictes à une drogue. Autrement dit, il doit y avoir une activation du centre de la récompense qui est détectable. Et donc elle a tout simplement repéré un certain nombre de couples amoureux et elle leur a demandé de bien vouloir passer dans un scanner pour voir si la région donc, qui correspond au centre de la récompense était activée ou non. Alors voici comment elle résume ses travaux. En bref, la passion romantique, notez bien la passion romantique, je vais revenir sur ce terme, passion romantique. La passion romantique est profondément inscrite dans l'architecture chimique de notre cerveau. Qu'est-ce qui en est la cause ? Pour poser cette question, j'ai décidé de faire usage des technologies les plus modernes d'imagerie cérébrale, connues sous le nom d'IRM fonctionnel, afin de tenter d'enregistrer l'activité cérébrale d'hommes et de femmes qui viennent de tomber amoureux. En fait, les personnes qui sont conviées à cette expérience, c'est des gens qui viennent de tomber amoureux, mais il y a deux groupes. Il y a ceux qui viennent de tomber amoureux et pour qui il y a une réciprocité dans cet amour, et puis il y a ceux qui n'ont pas de réciprocité. Deux groupes bien distincts, mais vous allez voir qu'en fait, ça produit le même effet. Et un petit peu plus loin, l'amour romantique est-il une addiction ? Demande-t-elle directement. Oui, je le pense. Une dépendance extrême, lorsque l'aimé est présent, un douloureux, pénible et souvent destructif manque lorsqu'il nous rejette. Alors, j'ai dit à l'instant que le terme passion romantique était important. parce que ce que je voudrais faire, c'est un petit détour, là encore, avant de rentrer un petit peu plus en détail dans les travaux de Helen Fischer, un petit détour par une thèse qui a été proposée en 1939, qui est une thèse bien connue de beaucoup d'historiens, de philosophes. Et cette thèse, elle a été donc proposée par Denis de Rougemont. Le livre dans lequel il la présente s'intitule « L'amour et l'Occident ». Et il explique, dans cette thèse de Rougemont, que l'amour romantique, c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé. C'est une invention de notre civilisation. Il la fait remonter même à un moment assez précis, à l'histoire de Tristan et Iseult. À ce moment, selon lui, on aurait le premier signe de l'apparition d'un type d'amour qu'on ne trouve absolument nulle part ailleurs dans le monde, et pas non plus dans notre civilisation, mais à une date antérieure. Donc, un amour de type romantique. Et je voudrais en venir ici à la comparaison des deux thèses. Donc, thèse de Denis de Rougemont, pour lui, l'histoire de Tristan et Iseult est l'acte fondateur de l'amour romantique, et on n'en trouve donc pas trace ailleurs. Pour Helen Fischer, maintenant, Roméo et Juliette, Paris et Hélène, Orphée et Eurydice, Héloïse et Abélard, Troïlus et Cressida, Tristan et Iseult est là aussi, mais au milieu de bien d'autres couples, des milliers de poèmes romantiques, chansons et histoires ont traversé les siècles depuis l'Europe, comme depuis le Moyen-Orient, le Japon, la Chine, l'Inde et toutes les autres sociétés qui ont laissé des traces écrites d'elles-mêmes. L'amour romantique est une expérience humaine universelle. Donc voilà la thèse de l'expérience humaine limitée, culturellement façonnée par notre civilisation, à un certain moment en plus. Et puis de l'autre côté, la thèse de l'expérience humaine universelle dont on trouverait des traces partout, et qui ne pourrait s'expliquer, bien sûr, que par la permanence de structures biologiques qui seraient, dans tous les cas, activées. Alors, voici le résultat, vous pouviez l'attendre ou l'anticiper, le résultat de l'imagerie cérébrale qui a été réalisée par Helen Fischer sur 32 personnes amoureuses. Et vous voyez qu'il y a un élément donc qui ressort, c'est l'activation de toujours la même région, le centre de la récompense. À partir de là, évidemment, ça c'est le résultat, c'est la donnée brute. Mais il s'agit d'interpréter cette donnée. C'est toute la difficulté. Et c'est tout le point aussi sur lequel la discussion peut se construire et se développer. Je voudrais en venir à ce point parce que c'est le point le plus sensible des thèses d'Helen Fischer. Mais je voudrais d'abord reprendre un certain nombre des affirmations qu'on trouve dans son livre. J'en suis venu à penser que les animaux éprouvent une forme d'amour romantique les uns pour les autres. Logique. Logique. Puisqu'on est parti d'un rat pour identifier un centre de la récompense, qu'ensuite on a retrouvé le même centre de la récompense chez des humains, qu'on a finalement montré que ce centre de la récompense chez les humains était activé lorsqu'ils étaient amoureux. Eh bien, pourquoi ne pas se dire que dans le cerveau du rat amoureux, il y a aussi une activation ? Et c'est effectivement ce qu'elle suppose. Et puis, un peu plus loin, je comprends mieux pourquoi nous sommes si déprimés et colériques lorsque nous sommes rejetés. Mes résultats ont changé ma façon de comprendre l'essence de l'amour romantique. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'essence de l'amour romantique, selon elle, il est inscrit donc dans notre cerveau, dans le nôtre et dans celui de nos ancêtres animaux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit apparaître au cours de l'évolution, peut-être chez les mammifères, peut-être même avant, peut-être déjà chez les poissons. Enfin, on ne sait pas exactement jusqu'où il faut remonter pour trouver l'origine de ce sentiment amoureux qui serait dans nos cerveaux eux-mêmes, Mais en tout cas, l'idée qu'elle suggère, c'est que c'est quelque chose qui est inscrit dans la biologie elle-même. Alors, pour ces auteurs, pour les auteurs comme Hélène Fischer, la passion amoureuse, c'est une addiction. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le passage que je citais, mais c'est aussi une addiction à travers l'effet qu'elle peut avoir. C'est une addiction puisqu'elle réveille le même type de structure cérébrale que ne réveillent les drogues, par exemple. Pourtant, sans contester ces résultats, les faits, encore une fois, ne sont pas contestables en eux-mêmes, on peut tout de même remarquer qu'il y a ici, en fait, deux questions différentes qui ont été confondues. La première, c'est la question de savoir ce qui se passe dans le cerveau d'une personne amoureuse. Donc, c'est les résultats qu'elle a produits. Et la seconde, c'est la question de savoir la cause de ce qui se passe dans ce même cerveau. Les deux aspects sont confondus et on peut le montrer en suivant en détail son raisonnement. Dans le cas de la drogue, on sait très bien pourquoi la région du centre de la récompense est activée. On sait que les molécules qui composent la substance vont se fixer sur des récepteurs qui sont eux-mêmes dans cette région qu'on appelle le reward center. Mais dans le cas de la passion amoureuse, on n'a pas donné la moindre explication au fait que ces régions soient activées, on a seulement remarqué que la région l'est. Autrement dit, on n'a aucune explication mécanique, on sait simplement que le produit d'activation qui se situe certainement ailleurs que dans le centre de la récompense, ce produit d'activation a un effet sur le reward center lui-même. Donc c'est un effet secondaire, c'est un effet de ricochet, si on peut dire. Ça n'est pas un effet direct. Vous voyez que subtilement, en fait, on a ici confondu deux choses et on laisse du coup se répandre l'idée que l'activation du centre de la récompense serait la cause du sentiment. Alors qu'en fait, il n'en est que la conséquence. C'est parce que le sentiment, constitué d'un très grand nombre d'idées, certainement, comme l'avait pressenti Spinoza, s'est mis en marche, qu'il en résulte une activation du centre de la récompense. Et non pas parce que le centre de la récompense est activé que le sentiment est là. Vous voyez qu'en fait, ici, on a confondu la cause et la conséquence, ou on a inversé cause et conséquence. Ou, autre façon de le dire, on a en fait discuté, dans les deux cas, de situations qui ne sont pas homogènes. Lorsqu'on parle de passion, ce dont on parle, c'est des choses dont les phénoménologues nous rendent compte. Les phénoménologues, c'est ceux qui nous parlent des phénomènes tels que nous les vivons. C'est aussi, par exemple, les écrivains. Les écrivains nous racontent des choses vécues. Ils parlent au niveau de la phénoménologie. Et puis, vous avez un deuxième niveau. Et là, vous trouvez le reward center, vous trouvez le centre de la récompense. Et là, ce sont des structures neuronales, ce sont des structures composées de tout un enchevêtrement de neurones. Et c'est sur ces structures que une drogue comme la cocaïne, par exemple, j'ai pris la cocaïne, j'aurais pu en prendre une autre, interviennent directement. Vous voyez qu'on a donc, dans un cas, dans le cas de la passion, en fait, deux niveaux. Un premier niveau qu'on peut appeler phénoménologique et qui caractérise les passions classiques, donc celles dont on trouve la trace jusque chez Homère. Et puis un deuxième niveau qui a été découvert, bien sûr, beaucoup plus récemment, celui de la chimie, dans lequel on a un certain nombre de molécules qui peuvent agir, elles, directement et pour ainsi dire mécaniquement sur le centre de la récompense. Alors, je voudrais retourner rapidement vers Spinoza et son idée de servitude. Je vous disais tout à l'heure que pour lui, La servitude, elle vient du fait, dans les passions, elle vient du fait que nous avons trop d'idées. Nous sommes submergés d'idées sur un même objet, sur un même être en général. Et cette submersion fait que nous passons d'une idée à une autre sans jamais pouvoir apprécier convenablement les liens qui nous associent à l'objet de notre passion. Donc dans le cas de l'addiction avec un produit, vous voyez que le mécanisme est complètement différent, puisqu'ici nous avons une production d'effets sur une structure et donc directement. Alors si on reprend l'analyse de Fischer, les états neuronaux que détecte l'IRM fonctionnel ne font que refléter en fait des états de pensée qui, pour être compris, nécessitent de prendre en considération les personnes, leur histoire, leur constitution, leurs aspirations, leurs désirs, etc. Toutes choses qui ne résident donc nullement dans le reward center. Vous voyez pourquoi je commençais tout à l'heure en disant que j'avais été frappé par ces liens qui étaient faits dans plusieurs interventions ce matin et cet après-midi, justement entre la situation, ce que les existentialistes appellent la situation d'un individu, et puis ce qu'il éprouve. Il suffit d'ailleurs de lire une description phénoménologique précise de la passion amoureuse, comme celle, alors je prends celle-ci parce qu'elle est l'une des plus célèbres et aussi certainement l'une des plus détaillées, comme celle qu'on trouve dans l'œuvre de Proust, dans « À la recherche du temps perdu ». Dans « À la recherche du temps perdu », vous avez deux volumes qui sont particulièrement consacrés, en fait tous les volumes sont consacrés d'une façon ou d'une autre à la passion amoureuse, mais enfin il y en a deux qui sont spécialement consacrés à ce qui se passe dans un rapport amoureux, et c'est ce que les Proustiens appellent le roman d'Albertine. Le roman d'Albertine est composé de deux parties. Une première partie s'intitule « La prisonnière », et c'est le moment où Albertine vit chez le narrateur. Et puis une deuxième partie s'intitule « Albertine disparue », c'est le moment où elle est partie. Et j'étais très frappé en entendant Michel Lemoyle ce matin, qui nous parlait des deux moments de ce qui va devenir une addiction. Donc premier moment, le moment où on a du plaisir à avoir un rapport avec un objet. Et puis deuxième moment, moment où on a du déplaisir à ne pas avoir de rapport avec l'objet. Ce qui n'est pas tout à fait pareil et qui définit, comme il nous l'a expliqué pour lui, le passage au rapport addictif. Eh bien les deux livres de Proust, donc La prisonnière et ensuite Albertine disparue, décrivent ces deux moments-là, ces deux moments de la passion. Premier moment, le moment positif, le moment où il y a un engouement pour la personne d'Albertine, et puis deuxième moment, le moment négatif, où il ne peut plus se passer d'elle. Dans cette description, vous retrouvez bien les deux aspects de l'addiction. Vous retrouvez bien les deux moments. Donc il y a certainement un lien. Mais malgré tout, le lien n'est certainement pas immédiat. Ça n'est pas un lien du même genre que celui qu'il arrive à Helen Fischer d'affirmer qu'il existe. Alors, donc, elle montre tout à fait bien, Helen Fischer, pour revenir et pour finir sur ses travaux, qu'il y a une corrélation entre état amoureux et activation de certaines régions cérébrales. Oui, il y a corrélation. Mais une corrélation ne veut pas dire une cause. Et très souvent, dans son raisonnement, elle passe de l'un à l'autre. Elle a montré qu'il y a corrélation. Mais pour passer à la cause, eh bien, il faudrait bien d'autres travaux. Et là, je pense qu'elle aurait beaucoup plus de difficultés à les produire. Alors, si je reviens sur la controverse de De Rougemont et Fischer, vous voyez qu'en fait, ces deux thèses qui paraissent si opposées ne le sont peut-être pas tant que ça. Il n'est pas absurde de penser que certaines formes privilégiées de relations amoureuses apparaissent à certaines époques, comme le suggérait Denis de Rougemont. Il parlait donc, lui, d'amour romantique. Ça n'est pas absurde de penser que dans un groupe humain, certains types de rapports, donc inventés à un certain moment de l'histoire de ce groupe, provoquent des activations du fameux centre de la récompense. Et on peut en faire d'ailleurs l'expérience presque tous les jours. On voit bien qu'une personne qui provoque un état amoureux chez l'un ne provoque pas la même chose chez l'autre. Il y a donc des différences dans l'appréciation des objets d'amour. Ce qui signifie que certainement, ils sont donc appréciés différemment au point de vue individuel et on ne voit pas pourquoi cette appréciation différentielle ne vaudrait pas aussi, ne pourrait pas valoir à un niveau collectif. Donc, ça n'empêche pas que certaines régions soient activées, certaines régions cérébrales soient activées lorsque le processus est enclenché. Et donc, l'opposition entre les interprétations de Rougemont et de Fischer reflète en réalité les deux niveaux d'analyse que j'ai distingués tout à l'heure. Le niveau d'analyse phénoménologique, d'un côté, que la littérature, malgré tout, est la plus à même et l'instrument le plus efficace, le plus adéquat pour décrire. Et puis, le niveau d'analyse chimique, le niveau d'analyse matérielle qui, lui, s'intéresse aux interactions entre des molécules dans le cerveau humain. Alors, je conclue rapidement. La passion n'est pas une addiction, au sens où je viens de les présenter, mais elle produit le même effet qu'une addiction. Et vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose de dire l'un ou de dire l'autre. Dire de deux choses qu'elles produisent le même effet serait identique à dire que des choux-fleurs et des choux de Bruxelles sont identiques parce que les uns et les autres permettent de se nourrir. Je disais ça pour Jean-Noël Missin, mais je crois qu'il a dû partir. On fait ici cette erreur logique qui consiste à déduire de l'identité des effets, l'identité des causes. Et puis, donc, juste encore quelques mots de conclusion. Surtout, l'intérêt n'est pas le même, car pour l'addiction, l'approche chimique est essentielle pour comprendre ce qui se passe. L'addiction par des produits. Alors que pour la passion, la chimie ne nous dit en fait que peu de choses, l'essentiel se passant en amont, se trouvant du même coup, plus accessible à l'approche phénoménologique. Et puis, évidemment, à trop privilégier une approche chimique, mécanique de la passion amoureuse, on risque de déclencher aussi une autre tendance qui serait de considérer l'état amoureux comme un état pathologique. Ce qu'il peut être, sans doute, de temps en temps, mais pas toujours. Voilà, merci de votre attention.
Merci pour cet exposé très intéressant. Vous pouvez voir, c'est quelqu'un, la lumière. Donc, je suis surpris, effectivement, que les philosophes, ils présentent plus des neurobiologies que les scientifiques, et les scientifiques plus des philosophies.
Mais pas plus, quand
que
même.
Les philosophes. Mais, donc, je laisse la parole au public, s'il y a des questions.
Je ne sais pas s'ils auront des questions sur la passion, sur la démonstration. C'est une démonstration.
Il y a une question, je crois.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main ou c'était...
On le cherchait. Ah, non.
Non, c'était un étirement.
Ouais. C'est toujours difficile de commencer, donc je commence. Merci beaucoup pour ta présentation, je le dis très sincèrement. Et j'ai beaucoup été rassuré par les conclusions parce que pendant toute ta présentation, je me disais, mais ça ne peut pas être ça. Et arrivé à la conclusion, je dis, ouf, ce n'est pas ça. Mais j'essayais tout de même de me coller à ce que tu présentais. Et ce qui est, excusez-moi du terme, on est en fin de journée, ce qui est rigolo, c'est que si tu colles la passion amoureuse au DSM-4 ou au DSM-5, ben ça colle très très bien.
Bah oui, c'est pour ça qu'il y a ce risque.
Ça colle très bien, que ce soit pour les renforcements positifs, que ce soit pour les renforcements négatifs. On ne va pas les détailler, on les a vus depuis ce matin. Mais dans ma tête, je les ai grainés. Je dis oui, mais ça colle. Ce qui ne met pas en cause, de mon point de vue, ta conclusion, ça met en cause le DSM tout de même. Alors, pour partager avec toi ma réflexion pendant que tu présentais ça, c'est que je me disais, est-ce que la passion est une dépendance ? Et moi, je dirais oui, c'est une dépendance. Et là, on reprend ce que disait Michel Aumale ce matin, qu'il n'aime pas le mot dépendance pour parler d'addiction, et qu'on comprend mieux pourquoi. Parce qu'effectivement, pour moi, la passion pourrait être une dépendance. Est-ce que c'est une addiction? Je suis content de la conclusion. Et juste pour finir là-dessus, si la passion amoureuse était une addiction, alors, et je parle en tant que scientifique cartésien, ce qui n'est pas forcément une qualité, alors on pourrait guérir l'addiction chimique par la passion amoureuse. Et malheureusement, ça ne marche pas, ça.
Voilà. Alors, ça ne marche pas? Est-ce que dans certains cas, ça ne peut pas marcher?
Ça marche dans certains cas, mais dans la globalité, malheureusement, la drogue a tendance à prendre le dessus.
Oui, d'accord. Mais alors, donc, ça c'est effectivement tout à fait intéressant. Ça veut dire qu'il y a une mécanique qui est plus efficace que l'autre, qui est plus stable. La passion amoureuse, du fait certainement de sa structure qui est donc liée à une multitude d'idées, est par nature instable. Une fois qu'elle est installée, stabilisée, elle peut être très durable. Mais dans bien des cas, en fait, on la saisit seulement dans son processus d'installation ou de désinstallation, c'est-à-dire dans une partie transitoire de son processus. Et donc, dans ces moments-là, elle est certainement moins forte que celle qui agit directement sur le centre de la récompense. Néanmoins, on peut garder l'idée que si la passion amoureuse donc, est suffisamment forte, mais ça marche certainement de la même manière pour d'autres passions, on a parlé de passion au jeu ou de passion au travail, pour le travail, eh bien, la passion est suffisamment forte et si elle se stabilise suffisamment vite et de façon suffisamment solide, alors la compétition n'est pas forcément perdue pour elle.
Ça renvoie aux travaux de Marcheleau, je ne les citerai pas, concernant l'environnement enrichi qui peut guérir de la dépendance, oui. La passion pourrait être aussi cet environnement. Oui.
Je vais passer la parole à Jean-Claude, mais dans passion, il n'y a pas tiré. Donc la passion, elle ne peut être que transitoire. Donc on ne peut pas guérir s'il n'y a que pas tirer. Si c'est qu'il n'y a que de la souffrance.
Oui, mais pourquoi elle serait nécessairement transitoire? Elle peut s'installer aussi.
Non, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça peut s'installer en effet durablement, mais dans le terme de passion même, il y a souffrance. Oui. Donc souffrance, pas tirer, ça veut dire que c'est fulgurant et rapide.
Oui.
Donc c'est antinomique avec...
On la voit très souvent dans ces épisodes transitoires. Mais on n'est pas non plus... Je pense par exemple à une passion pour un travail. C'est quelque chose... Alors on emploie le mot passion. On pourrait dire peut-être le mot ne convient pas. Mais justement parce que ça peut s'installer sur une très longue durée. Donc pour cette raison, peut-être le mot passion n'est pas adapté. Pourtant c'est le mot qu'on emploie et... Là, on voit bien comment l'un peut contrebalancer, comment la passion pour le travail peut contrebalancer des effets d'addiction sur des substances, par exemple. Et avec les individus, alors bien sûr, c'est là que la situation est la plus complexe, donc la plus instable. Mais ce n'est pas non plus toujours le cas, quand même.
Écoute, j'ai bien aimé ton analyse. Je me posais juste la question, est-ce qu'au fond, elle serait, cette analyse de la passion amoureuse relativement à l'addiction, elle ne serait pas généralisable aussi à d'autres passions? Enfin, on a déjà presque répondu. Par exemple, je pense à la passion du jeu d'argent. Pourquoi au fond, est-ce que la passion... Et ça rejoint la mise en cause du DSM qui est dite précédemment. Pourquoi est-ce que, dans ce cas, la passion du jeu d'argent est dans le DSM, considérée comme une addiction, et la passion amoureuse ou d'autres passions, pas, quoi, en gros. Est-ce qu'il y a une différence simplement au niveau phénoménologique, ou est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre?
C'est-à-dire, je pense que si on considère ces différentes passions, donc je viens de parler de passion pour le travail, passion pour les jeux d'argent... passion pour une personne, on pourrait sans doute, dans une analyse phénoménologique, classer ces objets de passion en fonction de leur degré d'instabilité, c'est-à-dire en fonction aussi de ce qui peut causer, des risques de dégradation de la passion elle-même. Et si on prend un classement comme celui-là, je pense qu'on va voir apparaître parmi les facteurs les plus stables la passion pour un travail. Parce que c'est quelque chose qui, bon, dans les cas favorables, bien sûr, si ça se passe mal, on peut toujours imaginer des cas où ça va se retourner contre la personne qui est passionnée, mais si ça se passe bien, la situation pour laquelle on est, la situation de travail pour laquelle on est passionné, va rester la même. Dans le cas du jeu d'argent, on a une situation intermédiaire, parce que, certes, la situation ne change pas, mais par contre, la fortune du joueur peut, elle, beaucoup changer. Et une fois qu'elle sera épuisée, il pourra plus se livrer à sa passion. Donc, il y a une instabilité. Et dans le cas de la relation à une personne, là, l'instabilité est maximale, parce qu'il y a à la fois l'instabilité de, enfin, les fluctuations qui peuvent se produire chez la personne qui est en face, et puis chez la personne amoureuse elle-même. Donc, double instabilité. Alors, donc selon le degré de stabilité, ou plutôt d'instabilité, on va avoir aussi quelque chose qui se rapproche plus ou moins de la situation qui a été décrite comme la situation d'addiction, où on a une stimulation à peu près constante du centre de la récompense. Mais donc, on pourrait sans doute, à partir d'une analyse de ce genre-là, détailler un petit peu ce qu'on voit faire très souvent. J'ai vu plusieurs livres là-dessus, le livre de Marc Valeur, par exemple, où il essaye de mettre en série toutes les addictions. La compulsion aux achats, par exemple, la compulsion aux jeux sur Internet, aux jeux d'argent, à l'amour, etc. Au sexe, qui n'est pas tout à fait la même chose que l'amour. Et donc, là, il y a une tentative pour pour placer un signe d'équivalence entre toutes ces situations. Je pense qu'une analyse phénoménologique conduit à faire apparaître des nuances. Le fondement de l'idée qu'il y ait des liens, on peut le comprendre à partir de l'idée qu'il y a une activation d'un certain centre cérébral, mais cette activation ne se fait pas de la même manière et pas avec la même efficacité, pas avec la même constance, selon qu'on est dans une situation ou dans une autre, selon qu'on parle de passion pour des jeux ou de passion pour une personne.
Est-ce qu'encore moi ? Ça me passionne, votre conférence. Quand vous avez parlé de la passion chez Fischer concernant les animaux, j'ai eu tendance à penser plutôt empathie.
Alors, oui... Elle s'appuie sur un travail, bon, je ne vais pas détailler, mais elle s'appuie sur un travail qui est en lui-même très intéressant, que peut-être certains ont entendu mentionner. Il s'agit d'un travail qui a été réalisé sur des mulots. Et il y a des groupes de mulots, des espèces de mulots qui sont très volages et d'autres qui sont au contraire très fidèles. Et un gène, un seul gène, a été prélevé chez les mulots fidèles, on l'a implanté chez les mulots infidèles et on a obtenu des mulots initialement infidèles devenus fidèles. Bon. Et alors, voilà, c'est là-dessus qu'elle s'appuie pour dire il y a chez l'animal aussi une propension dans certains cas, ah oui, purement biologique, puisque là on ne peut pas invoquer la culture, il y a une propension donc dans certaines espèces animales, a développé en relation avec un individu singulier, un individu particulier de la même espèce, une relation qui va activer le centre de la récompense et créer par là une dépendance. Voilà, et donc à partir de là, elle dit, le concept d'amour romantique n'est pas exclu chez l'animal. Bon, mais on peut tout à fait contester, hein, puisque vous voyez comment elle raisonne ici. Elle déduit l'existence de l'amour romantique, donc chez l'animal, de l'activation d'une région cérébrale. Et en fait, au départ, de l'activité d'un gène.
Ce que vous voulez démontrer aussi, comme on a parlé aujourd'hui, mais Marcello fera la conclusion, c'est que les addictions, il y a des aspects divers, très, 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 très... des aspects sociétaux, des aspects biologiques, etc. Mais là, ce que je vois pointer aussi dans votre conclusion, c'est la médicalisation de la passion. Ça fait référence aussi peut-être aux travaux qui ont été très à la mode de Jean-Didier Vincent sur l'amour chimique. Oui. Tout est chimique. Quoi.
Oui, et puis sa femme surtout, qui a écrit effectivement un livre sur la question. Et le livre, d'ailleurs, reprend une idée qui est celle que j'évoquais à l'instant. Hein. Et elle propose, d'ailleurs, j'ai été frappé dans une conférence que j'ai faite il n'y a pas très longtemps devant un public de médecins. J'ai vu une étudiante à la fin de la conférence qui est venue me demander si on pourrait mettre au point un produit, un psychotrope, un nouveau psychotrope, qui permettrait de lutter contre le manque, contre la passion amoureuse, mais déçue, la passion non partagée. Alors donc, elle voulait autre chose que le whisky, elle voulait... Et son idée, c'était que si on produisait un anticorps anti-ocytocine, puisque le produit qui établit la relation d'attachement, selon ses thèses, il est connu sous le nom d'ocytocine. Donc son idée, c'était, c'est déjà assez élaboré hein, comme raisonnement, mais donc pendant la conférence... Elle a dû avoir cette idée. D'ailleurs, elle ne voulait pas que je divulgue l'idée parce qu'elle m'a dit « je voudrais mettre un brevet, donc attendez un peu avant d'en parler ». Mais donc, l'anticorps était censé venir bloquer l'ocytocine de manière à empêcher donc, l'effet de cette ocytocine qui est effectivement de provoquer le sentiment de manque en relation avec l'être qui est absent. Donc voilà, c'est un projet de futur psychotrope. Bon.
C'est pas remboursé par la sécurité.
Ouais. Pour le moment, non.
Il pourrait essayer d'injecter l'ocytocine au partenaire qu'elle essaie d'essayer.
Alors ce serait une autre possibilité, mais ça peut produire des attachements non contrôlés.
C'est ce que Tristan a fait
avec... Oui, mais... C'est là que on ne sait pas comment il s'y prendrait, parce que, admettons, ou la personne, donc elle se dit, au fond, il y a une autre solution, mon anticorps ne marche pas, il y a une autre solution, c'est que j'introduise de l'ocytocine chez la personne qui ne m'aime plus. Mais qu'est-ce qui fera que cette personne va, à partir de cette ocytocine, développer une affection pour celle qu'il a utilisée ? On retrouve la problématique que j'ai évoquée, c'est-à-dire... Il y a un niveau qui est le niveau des idées, qui, en fait, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et Hélène Fischer est en fait la première à le reconnaître dans certains passages. Il y a des passages où elle dit pourquoi est-ce qu'un individu aime tel autre individu et pas tel troisième. Eh bien, ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que si cette personne aime une autre personne, alors... aime de façon amoureuse, par une passion amoureuse, alors telle et telle structure cérébrale vont être activées chez elle. Bon, mais donc, la stratégie de l'ocytocine, c'est pas mal sur le papier, mais je pense que ça risque d'aboutir à certains déboires.
Nous, comportementalistes, on arriverait bien, mais on ne va pas dévoiler les mécanismes. Mais j'ai deux remarques un peu plus sérieuses par rapport à votre présentation. Les miens, pas trop. Celui d'avant, mais il y a une étude récente publiée sur Nature d'un grand consortium international qui s'appelle Imagen et qu'il est allé regarder un nombre énorme de personnes. Il a regardé justement qu'est-ce que sont les facteurs prédictifs d'un usage à risque des drogues. Premier facteur entre tous, très surprenant, c'est la rupture amoureuse.
Oui, bah oui. Donc, oui, ça alors, ça par contre, ça ne m'étonne pas. Parce que, en effet, premier, hein. Si le manque vient du fait que le centre de la récompense est dans une situation de frustration, alors un des moyens de compenser cette frustration, c'est de l'activer directement, chimiquement.
La deuxième remarque, c'est effectivement sur la chimie de l'addiction, donc les systèmes de la récompense. Et c'est une. je connais quelque chose sur lequel nous on travaille beaucoup, mais il faut aussi comprendre de quoi on parle, parce qu'on ne parle pas effectivement de choses différentes. Vous avez bien dit que l'amour, la passion romantique, ce n'est pas l'activation des systèmes de la récompense. Néanmoins, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ce système de la récompense. Ce système de la récompense, probablement, comme on le comprend aujourd'hui, c'est la monnaie du cerveau. Donc il y a beaucoup de choses, c'est comme on fait beaucoup de travail, mais ce travail doit être traduit dans un langage que le cerveau peut comprendre. Et donc finalement, ce n'est pas les sentiments, la dopamine, c'est seulement une signal de quelque chose. Et donc effectivement, on ne peut pas tout résoudre avec la dopamine. Néanmoins, je crois que finalement, la dopamine, ces systèmes, elle est impliquée. Et nous, effectivement, Roy Wise, bien que sa théorie, elle est un peu ancienne, elle est un peu obsolète. Mais déjà, lui, il disait que par rapport à la récompense de la nourriture, la dopamine, ce n'était pas seulement la récompense. C'était ces monnaies. Les messages doivent passer par là.
Mais alors, elle est un peu obsolète, mais en même temps, si je comprends bien, elle est toujours en vigueur, puisqu'il y a une activation du centre de la récompense, qui était quand même sa thèse. Donc, en quoi est-ce qu'elle est obsolète ?
Elle est obsolète parce qu'effectivement, il traduisait dopamine et égale plaisir. Et c'est plus le cas. La dopamine, il fait quelque chose de plus subtil que les plaisirs. C'est un signal de quelque chose d'important qui s'est passé dans les cerveaux, qu'il faut mémoriser. Et effectivement, ce n'est pas une connotation spécifique, effectivement, comme les sentiments. Hein. Et donc, on peut prendre la passion amoureuse, on peut prendre la nourriture, on peut prendre une activation liée au sport. Et tout ça, c'est traduit, de quelque manière, dans un système unique, parce que les cerveaux, effectivement, on n'essaie pas d'avoir trop de redondances. Et donc, il faut passer par là, mais il n'explique pas tous les restes. Et c'est pour cela que, comme on parle des passions romantiques chez les animaux, bien que nous, on travaille chez les animaux, il faut dire que c'est impossible. Parce que les animaux, bien qu'il y a quelque chose d'inné, un réflexe biologique, il ne peut pas élaborer une passion comme nous, on le fait. Donc, il ne peut pas avoir cette idée du sentiment. Ils vont avoir des réactions plus ou moins.
Mais. Alors, évidemment, moi je suis d'accord sur le fait de dire chez les animaux ça pose problème. Mais d'imaginer une passion amoureuse, donc une passion spécifique pour un congénère. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que. Un biologiste peut en dire. Qu'est-ce qu'on en sait, en fait ? Parce que, est-ce que c'est une thèse de principe posée comme, voilà, c'est comme ça parce que l'animal ne peut pas faire telle ou telle chose ? Non, ou bien est-ce que
je vous dis, parce qu'effectivement, pour la dopamine, qu'est-ce qu'on sait, par exemple ? Maintenant, on a beaucoup de techniques pour stimuler la dopamine. Et c'est les manipulations des Halls. Halls, elle est arrivée à faire tomber amoureux des rats d'un levier. Les rats sont amoureux de ces leviers. Ils s'empêchent de manger. C'est ça. Si on mesure ça, c'est simplement un réflexe. Si on stimule les systèmes, on provoque un attachement. Mais cet attachement, il n'y a pas, effectivement, les connotations des passions, les connotations cognitives qu'on peut attribuer à les passions humaines. Je crois que nous, en premier, on doit s'empêcher. Ça. Donc effectivement,
Mais ce que j'ai pas bien compris, c'est pourquoi il faudrait s'empêcher de dire ça. Quel est l'argument qui fait que le biologiste dit ah non, si je fais ça, je fais de l'anthropomorphisme. C'est un argument que connaissent bien les philosophes. En général, c'est eux qui l'emploient. C'est eux qui disent ah non non, vous faites de l'anthropomorphisme là. Mais donc, si on se place du point de vue simplement scientifique. Ce qu'on doit dire, c'est qu'on n'est pas dans le cerveau du rat et on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Peut-être qu'après tout, il a un attachement spécifique, basé sur...
Mais il peut l'avoir pour un levier, c'est ça que j'ai dit.
Et pour un levier, oui, mais c'est pareil pour les êtres humains. Donc,
parfois,
avec le jeu d'argent, ils ont l'équivalent du
levier. Il y a une éthologue qui a travaillé sur les rats, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est déjà venue chez nous. donc qui justement travaille sur la façon dont les rats réagissent pendant les expériences.
Moi, j'ai juste un petit commentaire. C'est vrai que j'ai parlé hier avec un chercheur qui s'appelle Christelle Bonnaise, et elle a un projet qui débute où elle va voir ce qui se passe dans le cerveau d'un couple dont l'un est addict et comment ça interagit. Ils vont faire ça chez l'homme et également chez l'animal, voir l'effet du congénère et ce qui se passe dans le cerveau du congénère également et comment ça influence le comportement addictif.
D'accord. Mais donc là, c'est le comportement addictif pour des substances. D'accord. Et donc, elle voit l'interaction entre les deux. C'est pas le sentiment lui-même qui est analysé. Disons, il est analysé de façon indirecte.
Ouais. Allez-y.
Merci de donner la parole. D'après ce que j'entends depuis tout à l'heure par rapport aux animaux et à l'être humain, moi j'ai lu un livre d'après un philosophe qui s'appelle Baha'u'llah et il disait que les animaux suivent leur instinct animal et l'être humain a une conscience. Et j'aime beaucoup sa philosophie qui parle justement que tout est lié entre nous, chaque être vivant, on doit trouver la solution, que ce soit dans le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, tout est lié. Et nous allons trouver, mais c'est une infinie, on n'est pas encore... Même nos arrière-grands-pères ne sont pas nés encore. Nos arrière-petits-enfants.
Donc c'est un commentaire.
Et c'était pour demander, par rapport aux animaux, pourquoi vous prenez toujours les animaux pour pratiquer l'expérience.
Ah, d'accord. Je ne voyais pas venir la question.
On a fait une journée d'études sur ce sujet. D'accord. On pourrait vous offrir le livre, madame. C'est un sujet qui nous passionne.
Alors, c'est plus tout à fait vrai. C'est vrai du temps de James Rawls, mais vous avez vu que les expériences qui sont relatées par Helen Fisher et qui ont été faites par Helen Fisher sont réalisées chez l'homme. Et la différence, simplement, c'est que dans l'intervalle, on a mis au point une technique d'imagerie cérébrale qui permet de voir... Bon, alors là, il y a beaucoup de guillemets à mettre, voir ce qui se passe dans le cerveau. Certains vont jusqu'à dire voir le cerveau penser. À mon avis, c'est une expression qui va beaucoup trop loin. Mais en tout cas, on voit un certain nombre d'événements qui se déroulent dans le cerveau, donc cette fois le cerveau humain. Mais auparavant, pour faire quelque chose d'analogue, en effet, donc dans les années 50 a fortiori, le seul moyen c'était soit de regarder le cerveau une fois que l'individu était mort. Ça, on sait faire depuis le 19e siècle. Soit d'introduire, mais là c'est uniquement bien sûr chez les animaux, des perturbations dans le cerveau vivant. Donc c'est ce que vous avez vu dans l'expérience de James Rawls. Alors pourquoi ? Vous pouvez imaginer vous-même la réponse. On peut dire simplement, est-ce qu'on doit s'autoriser de traiter les animaux de la façon dont on les a traités pendant toute cette période et encore quand même aujourd'hui. Mais vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de questions que vous ne pouvez pas poser chez l'homme et qui intéressent l'homme. Donc en fait, c'est l'intérêt pour les réponses à ces questions qui font qu'on utilise les animaux. Voilà. Alors on pourrait dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se passer de poser la question, l'homme a vécu effectivement pendant des millénaires sans même imaginer qu'on puisse poser ce genre de questions. Donc on peut le faire. Maintenant, nous sommes dans une civilisation impétueuse du point de vue des questions qu'elle entend poser. Et donc, elle les pose à l'animal.
Bon, je vais prendre la parole justement parce qu'on travaille sur les modèles animaux. Et je crois que la question, ce n'est pas anodine, c'est très important. Donc, je viens de dire qu'on ne peut pas considérer les réactions instinctives d'un animal et les prendre pour des passions et donner la connotation cognitive qu'on donne chez l'homme. Mais les animaux sont tout à fait des modèles très importants pour répondre aux questions qu'on se pose ici. Il y a beaucoup de manipulations. Michel Lemoyle, qui a parlé ce matin, il a fait toutes ses études chez les animaux. Moi, j'ai fait des cours à l'université et je montre toujours les données sorties chez les rats en 1980 et les mêmes manips faites chez l'homme 15 ans, 20 ans plus tard pour trouver la même chose. Et malheureusement, mais c'est aussi la nature humaine, on est beaucoup plus complexe que chez les animaux. Et si on n'arrive pas à simplifier en prenant des modèles simples, on ne va rien comprendre chez l'homme. Si chez l'homme, on avait fait l'imagerie sans savoir qu'est-ce qu'on allait chercher, on n'aurait rien trouvé. Toutes les manipulations d'imagerie cérébrale, ils ont cherché déjà avec une hypothèse sur la main qu'elle était donnée chez les animaux. Les animaux, il y a des degrés des différences. Le disait déjà Darwin, hein, c'est une différence pas qualitative, mais c'est plutôt une différence quantitative qui, à un moment, ça devient qualitative. Hein, il faut pas la cognition, comme on l'entend, on a des précurseurs des cognitions chez l'homme, mais c'est très limité. Et en même temps, on peut trouver tout à fait tout ça chez l'animal. Et donc, à mon avis, ça reste très important de continuer si on veut aller dans ces progrès. Hein, j'ai parlé justement avec Didier Moreau, le directeur de l'Espace Mendès France. On parle beaucoup des sciences computationnelles. Et donc, avec la puissance des ordinateurs, avec toutes les données qu'on a obtenues, est-ce qu'on pourrait arrêter la recherche? Je lui dis, tout ça, il va nous aider à trouver ce qu'on connaît déjà. Hein, on prend toutes les données qu'on connaît déjà, on fait des analyses et on va trouver ce qu'on connaît déjà. Les ordi sont relativement des machines un peu stupides, bien qu'elles sont très performantes. Et donc, si on veut s'arrêter à ce qu'on connaît déjà, on peut arrêter la recherche aujourd'hui et continuer à se dire qu'on a toujours raison. L'animal biologique, elle est tellement plus complexe que nos modèles théoriques que c'est toujours, je crois, la référence. Et on doit être aussi suffisamment humble d'accepter que les chercheurs le font souvent. Le fait qu'on ne connaît pas beaucoup, et on a encore besoin de connaître beaucoup, et si on s'arrête aujourd'hui, on ne va pas avancer beaucoup. Je crois qu'elle avait une question ici.
Enfin, c'était pour rebondir par rapport à ce que vous dites. Et effectivement, tout au long de la journée, on a parlé des animaux, etc. Et je trouve qu'effectivement, c'est pour les chercheurs, c'est un objet d'étude. C'est un objet qu'on peut disséquer, qu'on peut, comme l'humain, on dit voilà, on ressemble au rat, on ressemble au cochon, on ressemble à tout ce qu'on veut. C'est mécanique. Maintenant, au niveau des solutions, ce qui est ressorti de cette journée, c'est que l'être humain, il est dans son environnement sociétal et ça interagit. Et ça, l'animal, on ne peut pas le créer. Il n'est pas dans un environnement, il n'est pas dans une société.
Oui.
Et je pense que pour vous, en tant que chercheur, effectivement, on peut analyser la mécanique, mais au niveau des solutions, parce que au final, les addictions... Justement, les chercheurs, ils veulent des solutions.
Pas si sûr.
Mais ils veulent des questions, chercheurs.
Est-ce qu'on peut adapter les solutions qu'on recherche pour l'être humain? Oui. Est-ce qu'on peut les modéliser par rapport aux animaux, même si les animaux sont aussi sociaux? D'ailleurs, on peut s'interroger sur le rapport du couple, de l'amour. Il y a des animaux qui vivent toute leur vie avec le même animal, les perroquets, les je ne sais quoi. Donc on peut s'interroger sur les sentiments des animaux. Mais
je vais vous arrêter tout de suite, je suis désolé, ça fait des années que je travaille avec Mendès France, je n'ai jamais fait ce que je suis en train de faire là, jamais, et vous le savez très bien. Mais je ne souhaite pas que la journée qu'on vient de passer aujourd'hui autour de la thématique de l'addiction se termine sur une discussion autour du bien-être animal, qui est une discussion tout à fait légitime.
Ce n'est pas du tout mon propos. Absolument pas.
Moi, ce que j'ai compris dans votre question, je la reformule, vous me direz si j'ai bien compris. C'est chez l'homme, il y a la question de l'environnement qui se pose. Chez l'animal, elle ne se pose pas. Ou en tout cas, pas de la même façon ou très peu. C'est pas si sûr. Et là, je passe éventuellement la parole aux spécialistes. Mais chez le rat, par exemple, ce qu'on a pu montrer, alors donc je parle sous votre contrôle, c'est que des addictions se produisaient à une certaine fréquence. Addiction pour un produit. Et que cette fréquence était largement diminuée, je crois d'un facteur 2, lorsque vous procuriez à ces mêmes rats
un environnement appelé enrichi, c'est-à-dire un endroit où ils peuvent s'amuser, tout simplement. Une roue où ils peuvent s'ébattre, ou un labyrinthe, ou que sais-je. Donc, un environnement où ils puissent s'amuser. Donc, vous voyez que l'environnement, même chez Laura, et sur donc, les effets addictifs de l'environnement, il n'est pas nul. Est-ce que je reflète bien les travaux
Justement, c'est le travail de notre laboratoire. Ah ben et voilà. Donc, c'est ça l'intérêt des modèles animaux. On peut prendre des morceaux que chez l'homme, on ne peut pas séparer de la complexité et dire c'est sept phénomènes, c'est sept facteurs qu'on peut toucher. Hein. Donc, c'est l'environnement, c'est l'activité physique. On peut disséquer, mais pas seulement, comme vous entendez, les cerveaux, même les morceaux des vies, les expériences des vies. On peut donner un événement traumatique aux animaux, traumatique légère, hein, c'est une séparation de la mère, c'est pas sympa, et voir qu'il y a une propension plus importante à développer une addiction, et après on peut récupérer même ces propensions. Et donc effectivement, on peut voir comme les épisodes, ils changent les cerveaux, quand on change les cerveaux, on a des changements des vulnérabilités, on peut récupérer. Donc on se pose la question, forcément, ça ne va pas être fait d'un jour à l'endemain, et c'est chaque pas de notre recherche qu'elle peut apporter ces questions. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'il a dit Michel Lemoyle ce matin, on ne s'est pas posé toujours les mêmes questions. Je ne dis pas qu'on ne s'est posé pas les bonnes questions. On se pose les questions de l'époque. Hein. Et si on ne connaissait pas qu'est-ce qu'on a fait avant, on ne pourrait pas se poser les questions qu'on se pose maintenant. Donc tout c'est important pour enrichir, pas seulement l'environnement, pour enrichir notre question.
Cela dit, pour aller malgré tout dans votre sens, donc la distinction n'est pas si facile à faire entre l'homme et l'animal. On voit des comportements qui sont très proches, surtout chez les animaux les plus proches de l'homme phylogénétiquement. Mais il y a évidemment une différence qui fait tout de même une barrière, c'est la présence d'un langage chez l'homme. Et tout ce que la présence de ce langage introduit comme raffinement, comme complexité dans la compréhension qu'il a lui-même de ses propres états affectifs, de ses passions. Je citais Proust tout à l'heure, voilà un exemple, peut-être un des meilleurs exemples qu'on ait, de l'interaction que peut produire un langage avec un état amoureux qu'il a vécu d'abord lui-même, qu'il a d'abord éprouvé lui-même, même si ce n'était pas pour Albertine, mais plutôt pour, je crois, un certain Albertini qui n'était pas du tout une femme. Mais bon, ça, c'est ensuite le travail de l'écrivain de reconstruire une passion fictive à partir de ce qu'il a éprouvé, mais il le fait donc avec un langage. Et ça, en effet, on ne peut pas l'attendre d'un animal. Si, donc sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de langage qu'il n'y a pas des expériences qui sont vécues, donc des expériences que Husserl appelait antéprédicatives, des expériences qui sont donc éprouvées avant tout langage. La meilleure preuve qu'on puisse en avoir, c'est les expériences qu'éprouve un nouveau-né, entre le moment de sa naissance et le moment où il acquiert sa langue. Celle qui va être sa première langue, sa langue maternelle. Bon, il a manifestement, et les études sur ce point se développent beaucoup actuellement, déjà des connaissances, et déjà des affects, déjà des, faut-il dire, des passions. En tout cas, c'est des émotions, un ensemble complexe d'attachements qui se développent donc sans langage. Même si le langage vient ensuite complexifier les choses, la base est là avant le langage. Donc il n'y a pas de raison que cette base ne soit pas aussi présente chez des animaux. Si on s'en tient à cette seule distinction, hein, langage d'un côté et pas de langage de l'autre.
Ouais. Tu as perdu le micro ? Je vais.
Non, juste également un tout petit commentaire d'un laboratoire qui travaille beaucoup sur l'animal. Alors c'est sûr, dans les modèles, il y a des limitations, mais il y a des intérêts, c'est qu'on contrôle tout l'environnement, on peut contrôler. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait de rats et des souris, ça vit 2 ans, donc on peut vraiment étudier ce qui se passe dès la naissance jusqu'à la fin de vie, hein, parce qu'on peut les suivre jusqu'à la, jusqu'au vieillissement. Chez l'homme, bien souvent, dans l'alcool, c'est mon gros problème, c'est qu'on étudie la pathologie une fois qu'on est à un stade extrême. Alors que là, on peut étudier à l'avance tous les facteurs qui sont impliqués dans la vulnérabilité génétique, etc. L'autre idée, qui va peut-être vous surprendre, c'est que dans mon laboratoire, on travaille chez l'abeille. Pourquoi ? Parce qu'on peut travailler au niveau d'une colonie entière, d'une ruche. Et l'abeille a énormément d'interactions sociales. Et elle dialogue. Pour le survie de la colonie, elle indique aux autres abeilles où est-ce qu'on va aller trouver tout ce qu'il faut pour butiner et faire vivre la colonie. On s'est aperçu récemment que des abeilles intoxiquées à l'alcool se font littéralement virer de la ruche parce qu'elles mettent en danger les congénères. Vous imaginez un petit peu ? Parce qu'elles transmettent des informations erronées. Donc là, on se met au niveau d'une colonie entière.
Pas de centre d'addictologie. Vous voyez ? Dans la ruche.
Non, mais c'est très, très, très intéressant. Donc on a mis en place des modèles d'études du comportement chez l'abeille. Juste pour vous donner un autre exemple, vraiment assez drôle, mais vous pouvez trouver des choses très intéressantes. Chez la drosophile, on a montré que la frustration sexuelle avait tendance à augmenter la consommation d'alcool du conjoint frustré. Et on fait des analyses de génétique pour trouver des pistes, etc. Enfin voilà, vous voyez qu'il y a des très beaux exemples. On n'imagine pas tout ce qui est fait, hein. Mais l'interaction sociale chez l'animal, oui. C'est quelque chose qui nous préoccupe. Et qu'on a, y a le milieu enrichi, mais il y a également les interactions sociales qui nous intéressent beaucoup.
Bon, oui, je crois qu'on va clôturer la journée. Merci aux intervenants, vraiment merci, parce que c'était une journée super enrichissante. Mais merci à l'Espace Maine des France qui nous a accueillis. Et donc, merci au public. Merci à la salle.